Madame, Monsieur, bonjour. Les grands titres du 11 avril, l'opposition fédérale en Australie s'oppose au plan d'accès aux pensions de retraite pour l'achat d'une première maison. Le Premier ministre Malcolm Turnbull est en Inde où il poursuit sa visite officielle. En Australie, les travaillistes vont s'opposer à toute réforme qui permettrait aux personnes d'utiliser leur contribution de pension de retraite pour acheter leur première maison. Des spéculations vont bon train que le gouvernement étudie cette possibilité. Le porte-parole de l'opposition sur les questions du Trésor, Chris Bowen, est sur l'ABC. On l'écoute.
The only winners would be vendors who would have two first home buyers with access to super outbidding each other, spending their superannuation money. This is just the latest Liberal attempt to undermine Australia's superannuation system. Malcolm Turnbull once said it was a thoroughly bad idea. Matthias Cormann said it was a bad idea as late as last month. And yet Scott Morrison, flailing around trying to find some answer on housing affordability when he refuses to use the main lever at his disposal, negative gearing reform.
Voilà, c'était Chris Bowen de l'opposition fédérale. Hier, le ministre du Trésor a déclaré qu'il n'y aurait aucun changement à la politique de negative gearing. Le sénateur des Verts, Scott Ludlam, critique cette politique, une déduction fiscale qui aide les investisseurs pour la plupart.
Curbs on negative gearing, absolutely, wind it back. Wind it back immediately. Negative gearing is no more than an incentive, or effectively it's been called a tax shelter for housing. And it simply has not done what its advocates said it would do in producing supply. In fact, I would argue that it's done the opposite.
Le sénateur des Verts, Scott Ludlam, l'économiste Saul Eastlake, pense que le plan d'utiliser des contributions de pension de retraite pour acheter les premières maisons ne fera qu'augmenter les prix des maisons, comme l'avait suggéré le Premier ministre il y a quelques semaines.
I think it is, as the Prime Minister said a few weeks ago, a thoroughly bad idea. Its effect will largely be to put further upward pressure on home prices to the detriment of almost all of those who are still looking to buy their home, and to the advantage of those who already own at least one property or more.
L'économiste Saul Eastlake. Malcolm Turnbull, le Premier ministre australien, est en Inde pour une visite officielle où il a aussi rencontré les responsables de la compagnie indienne Adani qui veut construire la plus grande mine de charbon avec le soutien du gouvernement fédéral. Le projet a été approuvé en décembre dernier, mais il y a une forte opposition des groupes environnementaux et des communautés aborigènes du Queensland. La compagnie indienne veut emprunter $1 milliard pour construire la ligne ferroviaire. Malcolm Turnbull insiste que la décision sur le prêt est sujet à un processus indépendant.
As far as the rail link is concerned, if you're asking about the Adani's interest in securing funding from the Northern Australia Infrastructure Fund. That's an independent process. It has to go through that process, through that independent assessment by the board.
Le Premier ministre australien qui est en Inde. Les chiffres préliminaires du recensement seront publiés ce mardi. C'est un coup de projecteur sur la vie quotidienne des Australiens. L'année dernière, les ordinateurs du Bureau des statistiques étaient la cible de cyberattaques. L'opposition fédérale se demande à quel point les résultats seront fiables. Des députés du gouvernement Turnbull insistent que le ministre du Trésor garde le programme de travail pour recevoir une allocation chômage, le Work for the Dole Scheme. Selon la presse Fairfax, le comité d'examen des dépenses envisage de mettre fin à ce programme de l'ancien Premier ministre Tony Abbott, un programme mis en place en 1998. Alerte aux champignons noirâtres qui peuvent causer la mort. Ils ont été localisés à Canberra, près des chênes. Depuis 2002, 4 personnes ont trouvé la mort dans les cities et d'autres ont été empoisonnées après avoir mangé ces champignons. La chef du parti One Nation, Pauline Hanson, demande à ses supporters de boycotter les chocolats fabriqués par la compagnie Cadbury parce que c'est certifié halal. Elle suggère les chocolats de la compagnie Lindt.
We see these products out there that are actually halal certified. Cadbury's chocolate, for instance, halal certified. But if you want to get product that's not halal certified, I'd suggest Lindt, that's not halal certified. And another great one is Daryl Lee. Again, Australian company, not halal certified.
Voilà, Pauline Hanson. La Grande-Bretagne a soulevé la question d'autres sanctions contre des militaires haut gradés de la Russie et de la Syrie après la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 en Italie hier. Le G7 déclare que toute personne soupçonnée de crimes contre l'humanité après l'attaque à l'arme chimique en Syrie sera arrêtée et jugée. Le G7 pousse pour que la Russie abandonne son soutien pour le régime syrien. Écoutez Boris Johnson, le ministre britannique des Affaires étrangères.
That choice is to stick like glue to the Assad regime with all that that entails, that toxic regime that poisons its own people and indeed is poisoning the reputation of Russia, or to work with the rest of the world, everybody represented here at the G7, as well as the like-minded countries, Turkey, the Gulf states, Saudi Arabia and so on, to work with the rest of the world to find a solution for Syria, a political solution.
Le ministre britannique des Affaires étrangères, Boris Johnson. La Suède a rendu un hommage national hier, lundi, aux 4 personnes tuées et 15 blessées de l'attaque au camion Bélier, vendredi dernier à Stockholm. Reportage Daniel Valo pour Radio France Internationale.
C'est l'hommage de toute une nation aux victimes de la violence terroriste. Sous un vent glacial, la famille royale vêtue de noir observe une minute de silence. C'est ensuite une courte allocution du Premier ministre suédois et de Karin van Gerd, la maire de Stockholm.
Today we remember the victims of...
Aujourd'hui, nous rendons hommage aux victimes de l'attentat. Nous pleurons avec vous pour toutes les victimes de cette attaque tragique. Mais nous faisons ce serment, nous ne céderons jamais devant la violence et nous ne laisserons jamais la terreur l'emporter. Stockholm restera une ville ouverte et tolérante.
L'hommage très sobre s'achève par une marche funèbre jouée par la fanfare de la garde royale. Devant l'hôtel de ville, les deux drapeaux suédois qui étaient en berne depuis 2 jours sont symboliquement relevés. Les Suédois souhaitent faire le deuil, bien sûr, des victimes de l'attentat, mais ils souhaitent également, dès à présent, renouer avec leur vie de tous les jours. Daniel Valo, Stockholm, RFI.
Voilà le reportage de Daniel Valo pour RFI. Le nombre d'exécutions à mort a baissé de 37% dans le monde en 2016, comparé à 2015, selon Human Rights Watch et Amnesty International. Les pays où l'on exécute le plus sont l'Arabie Saoudite, l'Irak, le Pakistan et la Chine. Écoutez Rose Kulak de Amnesty Australie.
China still has 46 crimes for which you could be facing the death penalty, and they include things like embezzlement and bribery and counterfeiting money and arson. They're crimes that no one would ever think would carry the sentence of death.
Rose Kulak de Amnesty Australie. Anne Denis est la responsable de la commission abolition de la peine de mort à Amnesty France. Elle dit que la Chine cache les chiffres exacts des exécutions.
Il y a une très très grande différence entre les cas qui sont mis en ligne et la réalité. La réalité parcellaire elle aussi, mais qui a été relevée par les médias. Le nombre d'exécutions qui a été relevé par les médias était supérieur à 900 et on a retrouvé sur la base de données seulement 85 de ces 931 cas relevés dans les médias. Donc c'est une volonté des autorités de ne pas dévoiler toutes les exécutions, toutes les condamnations à mort. Et on en a eu la preuve parce qu'on n'a pas retrouvé trace d'exécution de ressortissants étrangers condamnés à mort pour infractions liées à la législation sur les stupéfiants. De même, on n'a pas retrouvé mention d'exécution pour faits de terrorisme. Donc les autorités chinoises ont encore des efforts à faire pour amener de la transparence dans leur usage de la peine de mort.
Voilà Anne Denis de Amnesty France. En France à nouveau avec la commémoration de la bataille de Vimy remportée en 1917 par les Canadiens. C'était l'une des batailles les plus importantes de la Première Guerre mondiale. Dimanche, François Hollande, Justin Trudeau et une partie de la famille royale britannique étaient à Vimy pour marquer cet anniversaire. Reportage Mathieu Darieux pour RFI.
La Marseillaise est entonnée, mais c'est bien une cérémonie canadienne avec tous ses symboles, comme Isabel Boulay interprétant un hymne à la beauté du monde avec des enfants d'Ottawa et d'Arras.
Si on parle la beauté du monde, chaque fleur, chaque arbre que l'on tue revient nous tuer à son tour.
Véritablement acclamé par les 10 000 jeunes Canadiens présents, leur Premier ministre Justin Trudeau évoque l'héritage des hommes de Vimy.
En allant jusqu'à sacrifier leur vie, ces hommes à la fois ordinaires et extraordinaires ont combattu pour la première fois comme citoyens d'un seul et même pays. Le Canada est né ici.
Et François Hollande d'ajouter que la France est reconnaissante.
Chaque année, vous êtes des dizaines de milliers à venir du Canada pour honorer les héros de Vimy. La France vous accueille avec émotion et fraternité parce qu'elle n'a jamais oublié le dévouement des soldats canadiens.
Enfin, c'est Cœur de Pirate qui donne la dernière touche à cette cérémonie solennelle qui avait tout d'une fête sous le soleil du Pas-de-Calais.
Voilà le reportage de Mathieu Darieux pour RFI. Un mot de sport, les États-Unis, le Mexique et le Canada veulent organiser ensemble la Coupe du monde de foot de 2026. Je rappelle que les États-Unis avaient organisé le mondial de 1994. Écoutez le président de la Fédération de foot aux États-Unis, Sunil Gulati.
The general parameters of that bid are a World Cup of 80 games. Three quarters of which would be played in the United States, 60 games in the United States, and 10 each in Canada and Mexico. The final decision on those things are up to FIFA. It's their tournament, but that will be our proposal, and that is our agreement together.
Coup d'œil météo pour ce mardi en Australie. Perth maximale de 30 degrés, Adélaïde 22, Melbourne 20, Hobart 16, à Canberra 21, Sydney 24, Brisbane 26, Cairns 31, Darwin 29 et à Alice Springs maximale de 24 degrés. Un rappel des grands titres de ce 11 avril. L'opposition fédérale en Australie s'oppose au plan d'accès aux pensions de retraite pour l'achat d'une première maison. Le Premier ministre australien Malcolm Turnbull est en Inde où il poursuit sa visite officielle. Les États-Unis, le Mexique et le Canada veulent organiser ensemble la Coupe du monde de foot de 2026. Fin de ce journal et merci à vous de l'avoir suivi.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench